20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'Heure du Crime, une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vigneault. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette Heure du Crime avec à la une l'un des plus grands faits divers du XXe siècle, l'histoire de Violette Nozière. Violette Nozière, c'est d'abord un parcours criminel hors du commun, celui d'une jeune fille de 18 ans qui administre à ses parents un barbiturique puissant avant d'incendier l'appartement pour faire croire après un tragique accident domestique. C'est une affaire qui a fait la une de l'actualité dans les années 30, donc... On a dit d'ailleurs un peu tout et n'importe quoi sur cette affaire, sur la personnalité de cette jeune fille. Est-ce qu'elle était totalement mythomane? Quel était le mobile réel de ce crime atroce? On a émis énormément d'hypothèses. Et puis on a parlé aussi d'un éventuel complice. On va revenir sur tout cela. Mais d'abord un constat, c'est que plus de 80 ans après les faits, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, à la fois sur l'histoire en elle-même, et sur la personnalité profonde de cette femme. Et dernier élément, il faut savoir que cette affaire continue à fasciner le public aujourd'hui, au XXIe siècle, et en particulier les spécialistes d'histoire contemporaine. Alors, c'est là où je vous présente mon invité, qui est justement historienne, spécialiste d'histoire contemporaine, Anne-Emmanuelle de Martigny. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 13. Et vous, votre dernier livre, vous l'avez consacré à cette affaire Violette Nozière. Le titre de votre livre, Violette Nozière, La fleur du mal, c'est un livre qui est paru aux éditions Champ Vallon. Dites-moi d'abord, Anne-Emmanuelle de Martigny, comment et pourquoi vous êtes intéressé, d'une part à l'affaire Violette Nozière et bien avant à d'autres affaires célèbres et à ce qu'on pourrait appeler finalement de la micro-histoire?
Alors, je me suis intéressée à Violette Nozière parce que, de fait, je m'étais déjà intéressée à une affaire criminelle. J'avais travaillé, il y a maintenant une vingtaine d'années, sur Lassner.
Lassner, le dandy criminel.
Voilà. Ouais. Donc, Lassner, c'est au début du 19e siècle et Violette Nozière, c'est un siècle plus tard. Alors, moi, je m'intéresse aux affaires criminelles parce que je pense que c'est un formidable objet pour les historiens. L'affaire criminelle, ça intéresse beaucoup de monde. Le récit d'affaires criminelles, c'est un genre en soi, hein, qui a un public, qui a des fidèles. C'est plus récemment que les historiens se sont intéressés à ce type d'objet. Oui. Pour moi, le crime est intéressant parce que il permet de dire des choses sur la société dans laquelle... Il a eu lieu
en fait. Voilà. Alors on va revenir, c'est tout l'objet de votre livre qui est, je le dis tout de suite, qui est absolument passionnant parce que c'est pas le premier livre évidemment sur l'affaire Violette Nozière, mais c'est un regard très particulier, un éclairage particulier, et vous êtes en particulier évidemment intéressé à plusieurs aspects qui ont fait la une de l'actualité avec l'histoire de Violette Nozière. C'est d'abord le poison, parce qu'elle a empoisonné ses parents, c'est le double parricide quand même. Vouloir tuer son père et sa mère, c'est quand même pas rien. Et puis, il y a ensuite ce qu'on apprendra très rapidement après l'arrestation de Violette Nozière. Elle dira, parce qu'on cherche le mobile, pourquoi avez-vous fait ça? Mon père avait entretenu avec moi une relation incestueuse. Donc le poison, l'inceste, le parricide, ça fait beaucoup pour une jeune femme de 18 ans. On va revenir sur tout cela ensemble, sur votre éclairage. Mais d'abord, je vous propose, avant toute chose, de revenir sur les circonstances dans lesquelles l'affaire a éclaté. C'était en 1933. Bande de saligots sans pitié, vous me dégoûtez. Cette phrase, hurlée par une jeune fille d'à peine 19 ans, s'adresse aux 12 jurés de la cour d'assises de la Seine qui viennent de la condamner à mort pour crime de parricide. Nous sommes très exactement le 11 octobre 1934. Celle qui parle s'appelle Violette Nozière. En 1933, Violette Nozière vit avec ses parents au 9 rue de Madagascar, à Paris. Elle est lycéenne. Son père, Baptiste Nozière, travaille comme conducteur de locomotive à la compagnie ferroviaire Paris-Lyon Méditerranée. Sa mère, Germaine, est femme au foyer. Le ménage est un ménage aisé, mais sans plus. Et la famille mène une vie sans histoire. Ce que les parents de Violette ne soupçonnent pas, c'est que depuis ses 16 ans, cette jeune fille est devenue une spécialiste, disons, de l'école buissonnière et qu'elle collectionne les amants de passage à qui elle n'hésite pas à demander un petit cadeau pour améliorer son ordinaire, pour acheter des vêtements de prix et des produits de beauté. Bref, elle se prostitue occasionnellement et elle choisit ses amants chez les bourgeois aisés qui payent rubis sur l'ongle le privilège des caresses que leur procure ce joli fruit vert qui n'a pas froid aux yeux. Violette est aussi, dit-on, totalement mythomane. Elle aurait raconté que son père, simple conducteur de locomotive, est en fait un ingénieur, un inventeur haut placé de la compagnie PLM. Parfois, elle se présente à ses futurs amants comme un mannequin travaillant pour de prestigieux couturiers. Pour ses amis qu'elle rencontre dans les bistrots du quartier latin, elle se serait inventée une vie de jeune bourgeoise aisée qui dépense sans compter. Mais un jour, c'est la catastrophe. Violette a attrapé la syphilis, le mal du siècle. Comment se faire soigner sans avouer à ses parents pourquoi elle a été contaminée par cette maladie ? Alors Violette invente, dit-on, un nouveau mensonge. Elle réussit à se procurer auprès d'un médecin complaisant un faux certificat de virginité. Dès lors, elle racontera que sa syphilis est d'origine héréditaire. Elle est donc victime de cette fatalité. C'est, disons, la plus grosse pilule qu'elle réussira à faire avaler à ses parents. Mais Violette va encore plus loin. Un soir, elle donne à Baptiste, son père, et à Germaine, sa mère, un sachet de poudre blanche censé être un médicament qui les préservera de la terrible maladie. Il s'agit en fait d'un somnifère puissant qui devait, pensait-elle, les faire passer de vie à trépas. Après avoir ingéré la drogue que leur a donnée leur fille, les parents s'endorment profondément. Violette, qui a également absorbé, dira-t-elle plus tard, un sachet de somnifère pour se suicider en entraînant ses parents dans la mort, Violette met alors le feu à un rideau de l'appartement et elle appelle les pompiers. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. La dose de somnifère était insuffisante. Les pompiers arrivent très vite, ils réaniment les parents qui remercient alors leur fille de leur avoir sauvé la vie. Ce n'était malheureusement que partie remise. Au mois de juin suivant, Violette tombe amoureuse d'un garçon de 20 ans, Jean Dabin, un étudiant en droit désargenté. Elle couvre son amant de cadeaux, mais celui-ci doit la quitter pour rejoindre ses parents à l'occasion des vacances d'été. La jeune fille, désespérée de voir ainsi s'éloigner son grand amour, décide alors d'aller le rejoindre et de l'emmener avec elle, abriter leurs amours loin de France. Mais pour atteindre ce but, il faut deux choses. D'abord de l'argent, beaucoup d'argent. Elle sait que ses parents cachent leurs 180 000 francs d'économie quelque part dans leur appartement de la rue de Madagascar. La deuxième chose, c'est un gros problème qui ne peut se résoudre que par leur disparition. En effet, elle est mineure, sous la tutelle de ses parents, qui ne voudront certainement pas qu'elle interrompe ses études et qu'elle quitte la France avec Jean. Il faut donc les tuer. Alors, à l'Emmanuel de Martigny, évidemment, j'ai forcé le trait. J'ai raconté l'histoire de Violette Nozière, en tout cas le début de l'histoire, parce qu'on reviendra ensemble après sur le passage à l'acte ultime, évidemment. Mais je l'ai fait, évidemment, sur la base des articles de journaux, et Dieu sait s'il y en a eu, et d'un certain nombre de livres qui sont parus sur le sujet. On fait une pause. Et puis ensuite, vous nous racontez la véritable histoire, celle qu'il fallait entendre. Violette Nozière, La fleur du mal, c'est le titre du livre de mon invité Anne-Emmanuelle de Martini, un livre paru donc aux éditions Champvallon. Alors je disais il y a un petit instant que j'ai forcé le trait, évidemment volontairement, parce que on est dans le roman feuilleton, on est dans le polar, on est dans le genre dont vous parliez tout à l'heure, et il y a tout évidemment pour captiver, exciter le public, cette jeune fille de 18 ans, mythomane, qui trompe ses parents, qui veut leur voler leurs économies pour les beaux yeux d'un jeune homme. Vous revisitez cette partie de l'histoire. Vous dites en fait que cette histoire-là, c'est une des histoires qu'on a racontées sur Violette Nozière. Est-ce que c'est la véritable histoire ?
Alors, cette histoire, elle a passionné. Hein. Elle a passionné en son temps. Et elle a passionné en particulier parce que ces données sont incertaines et débattues. Il y a débat, et le débat essentiel, c'est sur le mobile. Hein, pourquoi Violette Nozière a-t-elle tué ses parents ? Alors, elle est arrêtée une semaine après le crime. Donc, une semaine, ça donne le temps aux gens, et en particulier aux journalistes, hein, de broder des explications.
Oui, parce qu'il y a eu la tentative que j'ai rappelée, et puis quelques temps après, c'est à peu près le même scénario, mais cette fois-ci, ses parents ne vont pas se réveiller, c'est-à-dire son père va décéder, et quand elle reviendra dans l'appartement pour vérifier si les parents sont morts, dit-on, sa mère, elle, a survécu. Elle est dans le coma, elle est tombée du lit en voulant se lever, mais elle est vivante. Quoi. Et elle va devenir d'ailleurs une des pires accusatrices de sa fille pendant le procès.
Oui, elle va jouer un rôle important dans l'enquête. Au départ, on pense plutôt à un suicide, et puis très vite, il s'avère que c'est la fille unique de ce ménage ouvrier qui est la coupable. Et alors pourquoi cet enfant a-t-elle tué ses parents ? On pense que c'est un crime mu par la cupidité. Ouais. Parce que Violette a tué, puis a volé les économies que ses parents avaient dans leur appartement. Donc, elle les a volées. Alors, il y a aussi d'autres explications qui sont peut-être encore plus terrifiantes. Violette Nozière, après son crime, le lendemain, est allée dans les grands magasins, elle s'est acheté une robe de soirée, elle s'est acheté des chaussures, elle s'est acheté des bijoux.
On retrouve sa trace dans des hôtels, elle a fait des rencontres masculines
et
également.
Soir, ouais. Et le soir, elle est allée au bal, en galante compagnie. Ouais. Donc, est-ce que cette jeune fille n'aurait pas tué des parents méritants, des parents modèles, pour aller faire la noce ?
Bien sûr.
Pour s'amuser, pour vivre sa vie. Donc voilà, telles sont les interprétations au début de l'affaire. Et puis quand elle est arrêtée, elle dit tout à fait autre chose au juge d'instruction. Mmh. Elle dit, si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis 6 ans, mon père abusait de moi.
Voilà. Et elle donne des détails.
Elle donne des détails.
Comment ça s'est passé ?
Voilà. Il va y avoir plusieurs interrogatoires. Elle va préciser ses accusations d'inceste qu'elle adresse à son père.
Ouais. Alors, il faut savoir que son père. Alors, son côté mythomane que j'ai évoqué, vrai ou pas qu'elle avait présenté son père comme un ingénieur, comme un inventeur, comme quelqu'un qu'il n'était pas, puisqu'il était, j'allais dire, simple cheminot, certes, il conduisait des locomotives. Mais est-ce qu'elle avait brodé sur l'image de son père, ou est-ce que ça c'est une création à votre connaissance de
Alors,
journaliste ?
Mythomane, oui et non. Violette Nozière mentait. Parce que pour aller s'amuser, pour déjouer la surveillance des parents, il fallait inventer des choses. Elle mentait. Elle mentait aussi à ses camarades sur ses origines sociales. Ses parents, c'était des ouvriers. Hein, vous avez dit, le père Nozière était mécanicien dans les chemins de fer. Donc des ouvriers, mais qui avaient des économies. Mais enfin, des ouvriers. Et donc, elle racontait que ses parents, que sa mère était couturière dans la prestigieuse maison de couture Paquin, que son père était ingénieur et non pas mécanicien. Hein. Elle mentait. de là à dire qu'elle était mythomane, pas du tout, parce que la mythomanie, c'est une pathologie. Mmh. Hein, une pathologie qui a été inventée au début du XXe siècle, hein, qui a été décrite par le psychiatre Dupré. Et c'est une pathologie qu'on pense surtout féminine. Comme l'hystérie, si vous voulez. Oui. L'hystérie, la mythomanie, ça va ensemble. Mmh. Et donc, bah, c'était commode, c'était facile de dire que, évidemment, elle portait des accusations. Mmh. La question, c'est que elle portait des accusations d'inceste qui, à l'époque, n'étaient pas audibles. Alors, il valait mieux dire qu'elle était mythomane.
Oui. Alors, elle avait raconté que son père bénéficiait d'un petit jardin. Il y avait des jardins ouvriers dans Paris, dans la périphérie parisienne. Que là, il y avait une cabane, que ça s'était passé là. Mais vous avez vraiment... Enfin, je crois que vous connaissez le dossier vraiment par cœur. Parce que, et d'ailleurs, les policiers n'ont pas si mal fait leur travail que ça, hein, en fait. Parce que on s'aperçoit que ce gamanon, il est exposé à tous les regards, donc on s'est dit mais comment est-ce que ces actes ont pu avoir lieu sans que personne ne fasse attention ? Comment la mère de Violette Nozière n'a-t-elle pas compris ou vu ou su ce qui se passait ?
Vous avez raison d'insister sur ce point. Le juge d'instruction a bien fait son travail. Et d'ailleurs, si on consulte son dossier de carrière, hein, c'est un bon magistrat, un excellent magistrat qui sait enquêter, il est plutôt en fin de carrière, donc il a de l'expérience. Donc il a bien fait son travail. Seulement, bah, ce juge, en 1933, il raisonne comme quelqu'un de 1933. Parce que la sensibilité aux violences sexuelles, et la sensibilité en particulier à l'inceste, oui, que nous avons aujourd'hui, nous,
n'a rien à voir avec, avec l'époque, effectivement.
Voilà. Oui. Donc c'est intéressant, cette affaire, sur l'histoire de la manière dont les sociétés réagissent.
On dirait la même chose pour le viol, hein, d'ailleurs.
Tout à fait. Nos représentations du viol se sont modifiées à partir de la fin des années 1970. Mmh. La question de la violence, des violences sexuelles sur enfants, là-dedans, est arrivée aussi, a fait irruption dans le champ de dans l'espace public. Oui. Aujourd'hui, hein, le pire des crimes, c'est le crime sur enfant. Alors que à l'époque de Violette Nozière, le pire des crimes, c'est le parricide. Donc c'est aussi une affaire qui est intéressante pour montrer comment finalement on a changé de société. On était encore dans une société du père. Aujourd'hui, on est dans une société de l'enfant. On dit beaucoup l'enfant roi. Mmh. Alors, c'est pas encore le cas en 1933, bien sûr, mais les années 30 sont certainement un jalon important. Hein, l'entre-deux-guerres, c'est un moment important dans cette évolution. Mmh.
Donc, elle cristallise cette jeune femme, cette jeune fille, hein, 18 ans au moment des faits, 19 ans au moment de son procès. Elle cristallise finalement tous les tabous qui sont évidemment respectés par la société. Le tabou du père, le tabou, alors tuer son père, c'est le crime absolu. Et en même temps, elle a on se dit mais comment ses parents ont laissé cette fleur du mal finalement s'épanouir chez eux, quoi. Ils n'ont pas fait leur travail, ils l'ont mal éduqué.
L'affaire est intéressante parce que c'est une affaire dont les données vont se complexifier au fur et à mesure. Parce qu'au départ, on a de bons parents et la mauvaise enfant, le monstre en jupon. Et puis après, le portrait des parents bascule. Avec les accusations portées par sa fille, le portrait du père va basculer. Est-ce que c'est le père incestueux ? Ou alors peut-être au moins, est-ce que c'est pas seulement le père faible qui a trop gâté sa fille ? Est-ce que c'est pas le père immoral qui a élevé sa fille dans une promiscuité trop grande, qui lui a montré des gravures pornographiques ? On a trouvé une gravure pornographique dans la chambre. Voilà, donc la figure du père, elle se brouille. Et puis aussi, la figure de la mère.
Alors... On voit se préciser ou quelquefois se brouiller l'image de cette jeune fille, selon également les convictions qu'on peut avoir, puisque du côté ouvrier, on va dire, mais les bourgeois tapent à coups redoublés sur ce père en disant qu'il était incestueux, d'une manière de finalement de minimiser ou de comment dire d'abîmer l'image de l'ouvrier dans la société de l'époque. Et d'autres vont dire mais comment cette jeune fille, elle a fait ce qu'elle a voulu. Les parents n'ont pas su l'éduquer comme il fallait. Avant que vous répondiez à ça, un mot sur Germaine, la mère, parce que elle va devenir vraiment une accusatrice terrible de sa fille pendant le procès. D'ailleurs, à un moment, ça a été repris par la presse de l'époque où elle, Violette Nozière, demande le pardon de sa mère. Pardonne-moi, maman, et la mère répond :« Je te pardonnerai quand tu seras morte. » Quoi.
Le portrait de Germaine Nozière bascule. Au départ, c'est la figure tragique par excellence. C'est la mater dolorosa, c'est la veuve éplorée, c'est la mère d'un monstre. Et puis, elle va, au bout de 15 jours, se constituer partie civile contre sa propre fille, ce qui l'oblige à renoncer à sa tutelle. Puisque le père est mort, Violette Nozière est mineure, et donc la mère a la tutelle. Elle est obligée, en fait, symboliquement, d'abandonner sa fille. Donc, finalement, elle devient une mère dénaturée. Et alors, au départ, elle s'attirait la sympathie de tout le monde, et après, finalement, le public va s'acharner sur Germaine Nozière, avec l'idée que c'était une mauvaise mère, et voilà. Et donc elle a enfanté un monstre. Et il y a tout un débat sur, évidemment, l'éducation, puisqu'on est dans une époque où le modèle de la famille autoritaire, eh bien, c'est plus le modèle dominant. Dans la famille, il y a de l'affectivité, l'amour maternel, ça devient la valeur suprême pour dire est-ce qu'on est une bonne mère. Donc voilà, il y a des évolutions dans la famille qui éclairent les débats qu'il y a eu sur l'éducation. Alors, on a des parents qui sont victimes d'une enfant monstre, et puis on se demande s'il n'y a pas finalement des parents coupables et une enfant victime. Donc il y a tout un débat sur l'autorité. Sur l'autorité paternelle, sur l'autorité parentale.
En tout cas, oui.
Et puis, il y a un débat sur donc, les rapports parents-enfants, et puis sur la jeunesse, la place de la jeunesse dans la société. C'est très important que ce soit une jeune fille.
Oui. Puis alors, il y a quand même, il y a la syphilis quand même. Il y a le mal du siècle, il y a cette histoire de syphilis. Alors, fait rejaillir évidemment sur Violette Nozière tous les maux d'une jeunesse perdue qui n'a aucune reconnaissance pour ses parents. Et il y a le sexe quoi derrière tout cela et les amants qu'elle collectionne ou qu'elle est censée collectionner, avec en plus le côté machiavélique de cette invention incroyable de la poudre qu'elle présente à ses parents en leur disant c'est le médicament qui va vous éviter d'attraper la syphilis.
Alors c'est important le poison. Violette Nozière est une parricide puisqu'elle a donné du poison à ses parents, mais voilà, c'est ça, elle a donné du poison, c'est une empoisonneuse. Et l'empoisonneuse, c'est vraiment une figure qui est enracinée dans l'imaginaire criminel.
On disait que le poison, c'était l'arme de la femme, par excellence.
Quand vous lisez les romans, quand vous regardez les complaintes, la figure de la parricide, ça n'existe pas. En revanche, l'empoisonneuse, ça a une tradition, il y a tout un... Il y a des fantasmes autour du poison, et l'empoisonneuse, si vous voulez, elle a cette place qui est vraiment centrale dans l'imaginaire du crime, parce que c'est le contraire de la mère nourricière. Donc l'empoisonneuse, c'est vraiment la figure archétypale de la femme criminelle. Et donc voilà, il y a le poison nourrit des fantasmes, et il y a cette figure de l'empoisonneuse que toute une tradition criminologique, psychiatrique présente comme machiavélique, séductrice, adonnée au sexe, cupide. Donc toutes ces représentations cristallisent autour de Violette Nozière, si bien que en étant l'empoisonneuse de toujours, finalement, Violette Nozière dispense de poser la question d'inceste. On n'a pas besoin d'expliquer le crime par l'inceste quand on a cette figure de l'empoisonneuse qu'on connaît bien, qui est mythomane, qui est hystérique, pardon. Voilà.
Et c'est ce qui va expliquer évidemment le verdict, parce que c'était chronique d'un verdict attendu quand même. De toute façon, ce procès, ça sera la peine de mort sans la moindre possibilité de d'imaginer qu'elle ait pu avoir quelque excuse que ce soit, en fait. Hein.
Tout à fait. Violette Nozière a été reconnue...
Sans
d'abord responsable, parce qu'il y a eu des experts, hein, d'abord responsable, coupable, sans circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte, on aurait pu tenir compte de plusieurs éléments. On n'a pas tenu compte de son sexe. Parce qu'il y a globalement une indulgence à l'égard des femmes en justice. On n'a pas tenu compte de son jeune âge et on n'a pas tenu compte du soupçon. Sur la moralité de Baptiste Nozière.
Alors, on fait une pause, et puis ensuite, il faut parler des surréalistes quand même. Il faut parler de ceux qui ont fait de Violette Nozière, à cette époque-là, une sorte d'icône de la femme libérée. Enfin, vous me direz, je ne vais pas faire les questions et les réponses, mais qu'est-ce qui a bien pu fasciner à ce point André Breton et d'autres à son époque, qui ont fait de cette femme une sorte d'héroïne, peut-être parce qu'elle représentait... la rebelle absolue contre une société que ces artistes ou que ces mouvements littéraires pouvaient contester tous les matins.
L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Anne-Emmanuel de Martigny, historienne spécialiste d'histoire contemporaine. Il faut dire qu'il y a eu un nombre de livres incroyables, un nombre d'articles que vous citez dans votre livre à l'époque, qui est absolument considérable. Et puis ensuite, il y a dans la période contemporaine, beaucoup plus proche de nous, il y a eu le film de Claude Chabrol, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et il y a eu aussi si j'ose dire, la suite de l'histoire, c'est-à-dire que elle a été condamnée à mort, certes, en 1934, mais elle n'a pas été exécutée, et elle a bénéficié, finalement, d'un certain nombre de circonstances qui font, mais ça, on va le rappeler dans un petit instant ensemble, qui font qu'à partir de 1942, je crois, elle va être graciée, elle va avoir une remise de peine, en tout cas, graciée plus tard par le général de Gaulle, et en fait, réhabilité, ce qui est quand même quelque chose de très rare dans une affaire criminelle. Mais d'abord, donc, cette fascination des surréalistes qui en font une héroïne.
Les surréalistes voulaient mettre l'art au service de la Révolution. Et ils ont vu en Violette Nozière une figure révolutionnaire. Pour eux, Violette Nozière incarnait une forme de révolte contre la société bourgeoise, société patriarcale, autoritaire, contre la société bourgeoise et ses institutions, c'est-à-dire la justice, la police, la presse également. Donc le discours des surréalistes, au fond, il prend à rebours le discours de la presse.
Oui. Hein,
et ils inventent finalement une autre lecture du fait divers.
Alors que ce n'est pas une lecture majoritaire à l'époque.
Pas du tout. Ils reconnaissent l'inceste pour vrai. Ils disent Violette Nozière a tué son père pour se libérer de l'inceste. Mouvement de libération qu'elle a commencé en multipliant les amants. Ce qui intéressait aussi André Breton et ses amis, c'est la liberté sexuelle. Violette Nozière incarne la femme affranchie. Et à l'époque, quand on dit affranchie, on veut dire affranchie sexuellement.
Oui,
dans la société, la figure de l'affranchie est une figure répulsive, une figure négative. Or, pour les surréalistes, c'est une figure positive, du désir, de l'amour. Et ils réhabilitent Violette Nozière comme l'amoureuse. Elle aimait Jean Dabin. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'est
Jean Dabin, une dimension. C'est le jeune homme dont elle tombe amoureuse.
Voilà, son elle amant, amant attitré, je voilà, dirais, bon. Et elle en était ouais. amoureuse. Mmh. Et ça, c'est un élément qui, auquel les surréalistes sont sensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que les surréalistes, alors c'est un recueil de poésie, mmh. avec également des dessins, et c'est un recueil de poésie qui parfois dit les choses clairement, qui dit, qui emprunte le, qui emploie le mot cru, le petit papa qui violait.
Ouais.
Alors que la presse, elle trouve des formules évasives, floues.
Oui, on ne nomme pas véritablement
le. On ne parle pas de l'inceste. Le mot est très rarement prononcé.
Même si le patron du 36, hein, qui est des orfèvres, le fameux commissaire Guillaume, dont Simenon aurait pris le modèle oui, pour oui. faire son personnage de Maigret, même si cet homme avait rencontré Violette Nozière, il faut parler de rencontre et pas d'interrogatoire, puisqu'il n'était pas, le juge d'instruction ne lui avait pas demandé hein, d'interroger Violette Nozière, sauf que il se trouve que elle lui a fait cette confidence, un des premiers hein, d'ailleurs, en disant que si elle avait tué son père, c'est parce qu'il y avait eu inceste. Mais personne n'a écouté, même le commissaire Guillaume, et a commencé par le juge d'instruction finalement, pour les raisons que vous disiez tout à l'heure certainement. Hein. Alors puisque vous venez de parler des poèmes des surréalistes, on va entendre un document RTL, on entendra d'autres documents tout à l'heure, mais qui remonte à 1966, c'est-à-dire à la mort de Violette Nozière, après-guerre donc. Le 29 novembre 1966, donc très peu de temps après le décès de Violette Nozière, RTL consacre toute une émission spéciale à cette femme. On parle de ce que nous venons d'évoquer, donc le fait que les surréalistes en avaient fait une sorte d'icône et d'héroïne. Et pour André Breton, le journaliste, rappelle qu'elle était, il cite André Breton, « mythologique jusqu'au bout des ongles ». Écoutez un bref extrait d'un des poèmes d'André Breton, lu par ce journaliste d'RTL lors de l'émission en question.
« Cette vieille dame, encore jeune, condamnée à mort par les hommes, condamnée à mort ensuite par la maladie, personne à Rouen ne savait que c'était elle qui, il y a 32 ans, avait inspiré au pape des surréalistes, André Breton, un poème qui est resté célèbre par sa beauté, mais aussi par sa volonté de provoquer. Violette Nozière, tous les rideaux du monde tirés sur tes yeux, ils auront beau, devant leur glace, à perdre haleine, tendre l'arc maudit de l'ascendance et de la descendance, tu ne ressembles à personne de vivant ni de mort. »
Voilà, l'exemple parmi d'autres, hein, bien sûr, mais il y avait des textes beaucoup plus, effectivement, explicatifs que cela. Alors, son procès, en fait, vous en parlez assez peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qui va se passer au cours de ce procès, c'est ce qu'on attendait. Est-ce que l'opinion souhaitait ?
Le procès, il arrive un an après l'affaire. Donc l'intérêt, évidemment, est retombé. Il est intéressant, le procès, parce que si je compare avec l'affaire Lassner, dont je parlais au début, l'assassin Pierre-François Lassner, finalement, il a rencontré son public au moment du procès, au moment de son procès. C'est le procès qui fait de lui une célébrité. Alors que pour Violette Nozière, c'est le crime. C'est le crime qui l'a fait connaître. Alors que le procès, finalement, Violette Nozière déçoit. Elle déçoit, pourquoi ? Parce que avec tous les discours qui ont été tenus pendant l'instruction, avec tous les articles de presse, on s'attendait à voir cette fleur du mal, cette femme fatale, cette empoisonneuse maléfique. Et qui on voit dans le box des accusés ? On voit une jeune femme banale, fatiguée, abîmée par la prison. Donc voilà, elle déçoit les chroniqueurs judiciaires. Qu'est-ce qu'on voit au fond ? On voit une enfant. On voit une enfant. Et donc, ce verdict terrible, une condamnation à mort, frappe une enfant de 19 ans. Alors, c'est intéressant parce que Violette Nozière, on en a fait un monstre. Et finalement, c'est pas un monstre qu'on voit au procès. Le procès, quand on lit les articles de presse, les comptes rendus, c'est assez terrible. On demande à Violette Nozière, il faut s'imaginer la scène. Dans le tribunal, c'est extrêmement impressionnant. On demande à Violette Nozière d'expliquer son geste. qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle arrive à dire? Elle dit « je ne peux pas ». Et le président s'énerve, lui dit « mais parlez plus fort, on ne vous entend pas ». On est obligé de la mettre debout, on est obligé de la déplacer, hein, de la faire venir au milieu du prétoire pour l'entendre. Et elle s'évanouit, elle ne peut pas dire. Alors, évidemment, les chroniqueurs s'étonnent et disent « elle n'a même pas eu le courage de dire qui était son père ». Elle n'a même pas eu le courage de dire que son père couchait avec elle. C'est insensé.
Alors on va se retrouver, on va faire une dernière pause dans l'émission, on se retrouve dans un petit instant. On va parler de ce qui s'est passé après, parce que, comme je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, elle n'a pas été donc exécutée évidemment. En 1942, elle va même bénéficier d'une remise de peine accordée par le chef de l'État français de l'époque, hein, le maréchal Pétain, et elle va être libérée définitivement le 29 août 1945, à l'âge de 30 ans. L'affaire Violette Nozière, mon invité Anne-Emmanuel de Martigny. Donc on a compris la démarche et vous, évidemment, à travers vos réflexions, vos éclairages sur les différents aspects de l'affaire, on a un tout autre tableau. Vous réunissez différemment les pièces du puzzle, si j'ose dire, qui nous donne un autre tableau de la France de l'époque, finalement, et du personnage de cette jeune femme dont on a dit évidemment pique-pente, parce que à l'époque qu'on ne pouvait pas, il était insupportable d'entendre une jeune femme de 18 ans accuser son père d'inceste, et on a toujours pensé, évidemment, que cette accusation d'inceste, elle l'avait fabriquée de toutes pièces pour attirer la compassion, évidemment, du tribunal. Il se trouve que, on le disait tout à l'heure, en 42, donc, elle a une remise de peine, elle est libérée définitivement le 29 août, donc 1945, à l'âge de 30 ans, et elle va épouser le fils du comptable, je crois, de sa prison, Pierre Garnier, avec qui elle aura par la suite 5 enfants. Et puis, elle va ensuite s'installer aux côtés de son mari à Neuvy-sur-Loire, enfin dans la région de Rouen, dans un certain nombre de régions. Elle va être aubergiste, en fait, et on va apprendre en 1966, le 29 novembre 1966, on apprend qu'elle est décédée. Elle est morte des suites d'un cancer, et ce jour-là, RTL revient dans une émission donc sur la fin de vie de cette femme dont personne n'avait plus parlé depuis la guerre. Écoutez le reportage de Jean-Robert Cherfis à Petit-Quevilly, près de Rouen. C'est là qu'était le dernier domicile de celle qui se faisait appeler Violette Coquelet.
Violette Coquelet, Madame Violette Nozière, c'était ici une femme comme les autres, une mère de famille qui vivait au Petit-Quevilly, sur les hauteurs de Rouen, 14 avenue des Canadiens. Là, pas de bruit, rien, des gens simples, loin de tout, on se croirait à la campagne, des gens qui se connaissent tous aussi. Et pourtant, Madame Coquelet, elle, on ne la connaissait pas. Bien sûr, on la voyait parfois, mais de moins en moins, non pas qu'elle se cachait, c'était la maladie qui la clouait chez elle.
Non, je ne la connaissais pas, monsieur, j'ai seulement aperçu quelquefois par hasard quand l'ambulance venait la chercher pour la conduire à la clinique où on lui faisait du cobalt étant donné sa maladie très grave. On ne savait pas qu'elle était Violette Nozière. On la connaissait que sous le nom de Mme Coquelet.
Elle avait des amis dans le quartier?
Je ne sais pas, monsieur. Au départ, je sais que il y avait une sœur qui venait lui faire des piqûres de morphine 2 fois par jour.
Et ses enfants, comment sont-ils?
Il y a une grande jeune fille de 17-18 ans et 4 garçons, dont le dernier a 6 ans environ. Et lui, je le connais un petit peu, parce que c'est un petit qui est très vivant et avec qui on peut parler, qui vient quelquefois dans mon escalier jouer avec un petit camarade.
Vous lui avez parlé de temps en temps?
Oui, au petit Dominique, je le connais.
C'était un petit garçon comme les autres?
Un petit garçon très vivant, un peu espiègle au début, mais très gentil.
On dit que Violette Nozière a eu une fin de vie exemplaire.
Oui, il y a longtemps qu'on l'a dit. On en a parlé au moment de sa réhabilitation, sa demande de réhabilitation.
Alors justement, Anne-Emmanuel de Martigny, c'est très rare une réhabilitation dans une affaire criminelle de cet ordre. Qu'est-ce qui s'est passé?
L'histoire de Violette Nozière est intéressante parce que c'est un trajet pénal et morale qui est tout à fait extraordinaire. Hein. L'histoire ne s'arrête pas en 1934.
Ouais.
Violette Nozière, finalement, a eu trois vies. La première vie de 1915, l'année de sa naissance au crime et au châtiment, 1933-1934. Ensuite, la deuxième vie, c'est la vie en prison, c'est la vie consacrée à l'expiation. Et puis, il y a eu une troisième vie, hein, après 1945, une troisième vie qui est stupéfiante dans le sens où tous les paramètres de la vie précédente sont renversés.
Oui.
La fille qui a voulu empoisonner sa mère vit avec elle. Mais Germaine et Violette habitent ensemble, travaillent ensemble, et jusqu'à la fin de sa vie, elle vivra avec sa mère. Donc elle devient l'enfant dévoué.
Ouais.
Celle qui représentait la figure d'une féminité pervertie devient une épouse modèle.
Voilà. Cinq enfants.
Une mère de famille nombreuse.
Ouais.
Donc l'empoisonneuse devient la mère nourricière. Et celle qui ne pensait qu'à s'amuser, à s'habiller, frivole, qui ne travaillait pas, qui séchait les cours du lycée, eh bien, devient une travailleuse acharnée, parce que Violette Nozière a travaillé toute sa vie après sa libération. Et puis celle qui ne pensait qu'à s'amuser, dit-on, hein, a eu une vie traversée de lourdes épreuves, puisque son mari a eu un accident d'abord en 1960, puis un petit peu plus tôt, puis il est mort, et puis après il y a eu ce cancer qui fait que la fin de la vie de Violette Nozière a été une vie très très difficile. Mais bon, 1963, pardon, c'est le moment de la réhabilitation. C'est en effet très rare. On dit souvent que c'est la première fois qu'une condamnée à mort a été réhabilitée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la première fois, mais enfin, c'est quand même très rare.
C'est quand même très rare.
Alors, pourquoi? Parce que Violette Nozière a eu d'abord en prison un comportement tout à fait exemplaire. Elle est devenue une détenue modèle, et donc la prison a été un espace de métamorphose. C'est le monstre qui s'est transformé en sainte. Là, c'est Marie-Madeleine, c'est le modèle de Marie-Madeleine. Un journal titre « La Madeleine repentie ». Donc, elle a bénéficié d'une mesure de grâce pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a été libérée grâce à ce comportement exemplaire. Et puis, pour la réhabilitation, voilà, c'est aussi la même chose. C'est une vie exemplaire.
Et il faut ajouter qu'elle a été inhumée donc à Neuvy-sur-Loire, aux côtés de son mari décédé, mais aussi aux côtés de son père, Baptiste Nozière. Une sorte de réconciliation posthume, je ne sais pas comment vous lisez
ça. Si
enfin,
dire ça.
En tout cas, voilà. Bon, ouais, pardonnez-moi, c'est le journaliste, on est obligé, finalement. Chasse le naturel, il revient au galop. Merci beaucoup, l'émission est terminée. À
Merci.
Bientôt.